Bonsoir. Les facilitateurs du dialogue national, Edem Skodjo, a annoncé hier mardi dans une conférence de presse qu'il va rencontrer Etienne Tshisekedi et l'opposition à Bruxelles ainsi que le groupe de soutien au dialogue pour discuter de la tenue de ce forum. Il exhorte ceux qui tergiversent encore à revoir leur position pour aller de l'avant, estimant que les dialogues qu'ils facilitent n'est pas différent de celui voulu par la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelle analyse faire de cette déclaration? Nous en parlons avec Félix Fouamba, il est secrétaire national de l'UDPS en charge du département des communications, informations et médias. Bonsoir Monsieur Félix Fouamba.
Bonsoir Monsieur Guy.
Patrick Thierry André Kakwata, député national de la majorité présidentielle et le président du mouvement des réformateurs libéraux MRL en sigle. Bonsoir honorable Patrick Thierry André Kakwata.
Bonsoir Monsieur Guy.
Et professeur Jeff Komodimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, le département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Komodimbi.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les facilitateurs du dialogue national Edem Kodjo annoncent qu'il va rencontrer Etienne Tshisekedi et l'opposition à Bruxelles ainsi que le groupe de soutien au dialogue pour discuter de la tenue de ces forums. Selon les facilitateurs, plus rien ne sert de tergiverser sur la participation des uns et des autres au dialogue. Dans une conférence de presse animée hier mardi au siège de la facilitation, Edem Kodjo affirme, je cite, « Ma patience a aussi des limites, mais en tant que facilitateur, j'ai une patience à boire toutes les eaux du Congo », fin de citation. Pour lui donc, le dialogue qu'il facilite n'est pas différent de celui voulu par la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'où il exhorte ceux qui tergiversent encore à booster leur position pour aller de l'avant. Edem Kodjo est au micro de Jeff Ngoy.
Ce problème du dialogue que l'on présente comme le dialogue de Kabila, tantôt comme le dialogue que la communauté internationale doit organiser, ce dialogue que je suis en train de faciliter était soutenu par les Nations Unies. Je demande à tout le monde de reprendre la résolution 2267 et de la lire. Le fait pour les Nations Unies de t'indiquer que ce dialogue est le bon et que tout le monde doit y participer ne veut pas dire que tout le monde a compris ce langage. Vous voulez que je démarre immédiatement quelque chose de partiel, vous voulez qu'on essaie encore de ramener une partie de l'opinion dans ce processus? Ma patience est aussi infinie que celle du poète qui a dit qu'il était prêt à boire toutes les eaux du Congo. Donc j'exercerai ma patience dans des limites supérieures. Mais il est évident que si on se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire du tout, on ne fera plus rien du tout non plus.
Félix Fouamba, je rappelle que vous êtes secrétaire national de l'UDPS en charge du département des communications, informations et médias. Et comment vous réagissez à la déclaration du facilitateur Edem Kodjo?
Ma réaction par rapport aux déclarations du facilitateur Edem Kodjo, c'est une réaction d'acceptation et de bonne réception.
C'est-à-dire
que, comme Edem Kodjo reconnaît que le dialogue en question dans notre pays a été soutenu par le Conseil de sécurité et que le Conseil de sécurité a estimé que c'était le meilleur dialogue qu'il fallait pour ces pays, j'estime que à ces niveaux de considération, c'est une très bonne chose de la part d'Edem Kodjo, hein, parce que lui-même a dit, il y a des gens qui parlent du dialogue de Kabila, il y en a des gens qui parlent du dialogue de la communauté voulue par la communauté internationale. Moi, je crois que en disant que ce dialogue a été considéré par le Conseil de sécurité comme étant le bon dialogue pour les Congolais, et nous disons... c'est une très bonne chose de la part du facilitateur.
Oui, on ne comprend pas votre position, parce qu'en fait, dans l'engagement des Jambal, l'opposition rejette le dialogue tel que convoqué par le président Kabila et s'est dit favorable au dialogue selon la résolution 2277. Mais Edem Kodjo affirme que le dialogue qu'il facilite n'est pas différent de celui voulu par la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Oui, mais si Edem Kodjo dit que le dialogue qu'il est en train de faciliter n'est pas différent de celui voulu par le Conseil de sécurité, je crois il est en train de rejoindre la position des déclarations de Genval. Parce que la déclaration de Genval a voulu que le dialogue à organiser soit en parfaite harmonie avec l'idée et l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cela veut dire que l'UDPS ainsi que ses alliés du Rassemblement et qui se sont réunis récemment à Bruxelles seront présents, n'est-ce pas, au dialogue.
Si Monsieur Kodjo, excusez-moi, dans sa démarche, nous fait la démonstration et la meilleure qu'il reste effectivement attaché à l'esprit de ces déclarations, nous serons aussi dialogue.
Et qu'est-ce qu'il doit faire, n'est-ce pas, concrètement, pour que vous soyez rassuré qu'il est resté attaché à l'esprit de cette résolution 2277?
Ce qu'il devrait faire pour que nous soyons convaincus qu'il est resté attaché à l'idée de cette résolution, c'est d'abord présentement et la démarche qu'il est en train d'amorcer pour aller rencontrer le président Étienne Tshisekedi et les autres membres du rassemblement, du comité des sages du rassemblement. Alors la démarche, nous acceptons. Et quand il vient, nous voyons, alors en ce moment-là, nous comprenons que M. Edem Kodjo a cessé de tergiverser aussi, ou a cessé de se faire tirer par un courant contraire.
Alors, à ce moment-ci, quels sont les points de divergence entre les dialogues que vous exigez, que l'UDPS et ses alliés du Rassemblement exigent, et celui dont le facilitateur est Edem Kodjo?
Non, vous savez, à un moment donné, Monsieur Edem Kodjo a semblé marquer un peu d'hésitation. C'est pourquoi je disais qu'il était finalement écartelé entre...
Pourtant, il avait dit que s'il y avait blocage, il y a cela quelques mois, s'il y avait blocage, c'était suite au fait que l'UDPS, n'est-ce pas, ne lui avait pas amené la liste et qu'elle avait promis de l'amener. Donc, le blocage, c'était au niveau de l'UDPS.
Non, le blocage n'était pas, en fait, au niveau de l'UDPS. L'UDPS était tout simplement en train de s'armer d'un certain nombre de garanties pour éviter que ces dialogues ne soient pas comme le dialogue que tout le monde...
Quelles sont ces garanties?
Le garantie était de vouloir savoir, en fait, au niveau de l'opposition, qui faisait partie de cette opposition. Vous êtes un témoin privilégié de l'histoire à travers votre travail de journaliste. Alors, les journalistes, enfin, on dit que ce sont des témoins privilégiés de l'histoire parce que vous avez suivi, dans beaucoup de cas, dans ce pays... Quand il y a eu dialogue, il y avait toujours intrigue, cabale, débauchage, corruption, et finalement, les gens que l'on embarquait pour le compte de l'opposition étaient des infiltrés du pouvoir pour venir saboter.
Et là, c'est un problème qui se posait au sein de l'opposition. Et actuellement, les problèmes, qu'est-ce qui vous divise entre vous et Edem Kodjo? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous entendre?
Non. Dire que nous n'arrivons pas à nous entendre serait un peu du trop-plein.
Et pourquoi vous posez des conditions avant de venir participer à ces dialogues?
Est-ce que M. Edem Kodjo a déjà convoqué un quelconque dialogue? Il a annoncé la date de la tenue de ces dialogues. Je ne pense pas.
Alors le problème se situe à quel niveau?
Non, le problème se situe au niveau où nous devons ensemble éclaircir les zones d'ombre. C'est-à-dire éclaircir les zones d'ombre, nous devons chercher
Quelles
à
sont
voir,
ces zones d'ombre?
Au niveau de l'utilisation. Pas seulement de l'utilisation, même du contenu que l'on met dans les concepts que l'on utilise.
Contenu, oui.
Ouais.
À part les contenus.
Et Edem Kodjo lui-même a dit qu'il va à Bruxelles pour essayer avec les autres, essayer de définir, d'essayer de comprendre le contour d'un certain nombre de questions et principalement des concepts. Le tout se situe au niveau du contenu à mettre dans le concept.
Alors, lorsque vous dites vous n'êtes pas disposé à participer au dialogue tel que convoqué par Kabila, vous ne pensez pas que là vous êtes en train, n'est-ce pas, de passer votre temps sur des considérations formelles, alors que ce qui, en principe, doit vous préoccuper, vous, de l'opposition, c'est plutôt la forme, les fonds. Pas la forme, mais plutôt les fonds de ces travaux, de cette question.
Vous n'êtes pas sans ignorer, M. Guy, qu'il arrive dans beaucoup de cas Quand la forme est mauvaise, le contenu devient bancal. Et le dialogue tel que convoqué par M. Kabila est en train en fait d'édulcorer ou peut-être d'essayer de contourner la question de fond.
Alors ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est l'ordonnance portant convocation de ce dialogue ou c'est le fait que le chef de l'État a pris l'initiative de signer une ordonnance portant convocation de ce dialogue le 15 novembre dernier ou c'est... Qu'est-ce qui vous gêne?
Ah ben ce qui nous gêne, c'est justement parce qu'il a pris une ordonnance.
Ah donc c'est cela veut dire que si aujourd'hui on arrive à annuler cette ordonnance, vous n'allez plus poser d'autres conditions?
Parce qu'en fait, en ce moment-là, c'est pas lui qui convoque le dialogue.
Merci Patrick Thierry André Kakwata, député national de la majorité présidentielle. Vous êtes président du mouvement des réformateurs libéraux MRL en sigle. Comment vous analysez cette déclaration d'Edem Kodjo?
Non, en soi, la déclaration d'Edem Kodjo, il faudrait la saluer, dans le sens qu'il a pu percevoir le problème congolais. Et il a compris qu'il faudrait que j'aille vers cela que nous avons besoin pour que les choses aillent de l'avant, si je peux dire ainsi.
Et donc, vous jugez positive cette initiative prise par Edem Kodjo d'aller à Bruxelles pour rencontrer l'opposition?
Je la juge positive dans le sens que déjà, le qualificatif que nous lui avons attribué, facilitateur, donc il ne fait que maintenant prouver réellement qu'il est le facilitateur, parce que normalement son rôle c'était que quand les deux camps ou trois camps ne s'entendent pas, il lui doit jouer à ce qu'il puisse nous unir. Donc, c'est une démarche que j'approuve et je félicite qu'il est en train de jouer son rôle.
Est-ce que vous comprenez le fait que l'UDPS, en fait, Étienne Tshisekedi, ainsi que ses alliés du Rassemblement, disent qu'ils ne sont pas, en fait, qu'ils rejettent le dialogue tel que convoqué par Joseph Kabila? Vous comprenez ces faits-là?
Vous devez savoir, depuis un certain temps, je suis en train de marteler là-dessus et je suis en train de prendre le peuple à témoin. Et c'est pour cela que je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à Radio Okapi pour que je puisse encore marteler la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ou là où nous sommes en train d'aller demain, c'est l'opposition qui est en train de la vouloir. Pourquoi je le dis? Là, vous prenez l'ordonnance convoquant le dialogue par le président Kabila. L'ordonnance ne s'écarte pas de la résolution 2277. C'est pour ça que vous avez entendu que le facilitateur, il nous a même interpellé d'une manière polie, en disant que c'est comme s'il est loin de 2277. S'il a été désigné, c'est parce que 2277 a reconnu le dialogue. Et ce dialogue, même dans l'ordonnance du chef de l'État, le chef de l'État a dit, nous attendons un facilitateur. Donc on ne s'écarte en rien. Et d'une manière polie, Edem Kodjo dit, vous voulez que je vous dise encore de quelle manière? C'est clair et je ne m'écarte pas de 2277 dont vous êtes en train de réclamer. Mais comme eux parlent d'une alternance, et c'est ce que je dis, l'alternance ce n'est pas la majorité qui part pour laisser à l'opposition. L'alternance peut se faire au sein de la majorité même. Mais sachant qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils ne vont pas gagner les élections, traînons les pas. C'est pour ça que vous avez entendu la déclaration du secrétaire général de la majorité qui a dit qu'il y a un coup d'état institutionnel, un coup d'état de la constitution en gestation du côté de l'opposition.
Voilà, donc vous estimez que c'est l'opposition qui est à la base de la situation que nous déplorons aujourd'hui, mais il y a des experts, n'est-ce pas, qui expliquent l'attitude de l'opposition par certaines initiatives que prend la majorité présidentielle, c'est notamment la saisine de la Cour constitutionnelle par certains députés de la majorité présidentielle sur l'interprétation de l'article 70 alinéa 2, il y a aussi l'annonce de la tenue éventuelle du référendum constitutionnel. Vous ne pensez pas que ce sont ces actes-là, n'est-ce pas, qui poussent l'opposition à se radicaliser?
Non, je vous dirai pourquoi je suis en train d'accuser l'opposition, que c'est elle qui veut cette situation, et elle est en train de nous amener tout droit dans un mur, voulu par l'opposition. Je veux vous essayer de vous démontrer d'une manière arithmétique. Le chef de l'État a fait des consultations au mois d'octobre. Il conclut ces consultations. Et de toutes les consultations, c'était impératif, il faut qu'il y ait un dialogue. Pourquoi? quand nous avons terminé les élections en 2011, toute la classe politique de l'opposition n'a pas eu confiance au fichier électoral de la CENI et qu'il fallait la fiabiliser. Mais dans l'entretemps, ils ont réclamé un calendrier. Le président Moulunda, à son temps, a donné un calendrier partiel. L'opposition dit, nous rejetons, nous voulons un calendrier global. Le président Malumalu vient, il donne un calendrier global. Il rejette encore, l'opposition rejette encore, donc elle rejette encore le calendrier global en disant qu'il n'est pas aéré. C'est un exemple que je prends toujours l'anecdote. On est dans une même maison où la nourriture est préparée par maman, les enfants ne mangent pas, vous jetez.
Alors nous arrivons,
jusqu'à
nous
quand vous allez moment... rejeter cette nourriture, le président dit non, si c'est comme ça, au lieu de rejeter, peut-être maman met trop du sel. Qu'on appelle les enfants, qu'ils disent pourquoi vous refusez de manger. C'est comme ça qu'après les consultations du chef de l'État, en novembre, le chef de l'État dit mettez le politique autour pour que nous puissions avoir un calendrier consensuel qu'on n'ait plus à rejeter.
Alors pendant que cette démarche est menée, la majorité s'est permis de saisir la Cour
constitutionnelle. J'en arrive, j'allais vous répondre jusqu'à ce
après,
point-là.
Il y a cette annonce.
Si vous me permettre que je termine l'analyse, je vais répondre même à cela. Alors quand le chef de l'État dit que nous puissions trouver un calendrier consensuel, nous sommes au mois de novembre. Étant au mois de novembre, donc tout a bloqué parce que nous attendions à ce que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour que nous puissions décider d'un calendrier consensuel. Prenons maintenant le temps. Si à cette période-là, l'opposition était venue autour d'une table et que la CENI nous aurait demandé les 13 mois demandés par Corneille Nangaa à ce jour et que nous puissions dire d'un commun accord, comme les décisions du dialogue, ce sont des décisions consensuelles, d'un commun accord, pas question de 13 mois, c'est 8 mois ou 6 mois. Dans les 6 mois, prenez de novembre ou de décembre autour d'une table, jusque les 6 mois, c'est aujourd'hui au mois de juin que la CENI devra avoir un fichier électoral fiable, inclusif, tenant compte de tout le monde. Donc le corps électoral qui est convoqué 90 jours, nous l'aurons respecté au mois de septembre. Tel que je vous parle aujourd'hui, même l'opposition est consciente que les contraintes techniques de la CENI sont exactes. Et c'est comme ça que maintenant nous, en se disant prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Comme l'opposition nous amène dans cela, parce qu'il prépare en gestation un coup d'état institutionnel et constitutionnel, veuillons saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation des articles, de sorte à leur démontrer que votre idée là, nous l'avons déjà connue ici.
Mais vous avez commencé à parler du coup d'État, c'est après les conclaves de Genval, vous n'avez pas parlé du coup d'État, lorsque il y avait divergence dans l'interprétation de l'article 70.
Il fallait le dire après Genval pourquoi ? Parce que nous, à la majorité, nous n'aimons pas les procès d'intention. Et on n'aime pas prêter, avoir des prétentions, non. On a eu vent, mais ce n'est que Genval n'a fait que confirmer ce qu'on a eu vent, et c'est pour ça que nous avons réagi maintenant.
Honorable Kakota, est-ce que le pouvoir peut accepter d'annuler l'ordonnance présidentielle convoquant les dialogues, si cela est susceptible, n'est-ce pas, de décrisper la situation?
Je crois que la résolution 2277... a tenu compte qu'il y a un président de la République, a tenu compte qu'il y a un gouvernement et a tenu compte qu'il y a une souveraineté. Et si on doit annuler l'ordonnance d'un président de la République, Eden Kodjo n'est qu'un facilitateur. Quel est l'acte juridique qui va couvrir Eden Kodjo pour appeler le Congolais autour de lui?
Merci.
Je vous ai dit tout à l'heure que l'ordonnance présidentielle ne s'écarte pas de la résolution 2277.
Merci, professeur Joseph Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Edem Kodjo exhorte ceux qui tergiversent encore à revoir leur position pour aller de l'avant, étant donné que le dialogue qui facilite n'est pas différent de celui voulu par la résolution 2277. Et comment vous analysez cette déclaration d'Edem Kodjo?
Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour la confiance que vous me faites une fois de plus dans cette émission Dialogue entre Congolais. Je voudrais, avant de répondre, saluer aussi tous les co-débatteurs. Je voudrais dire que Monsieur Eden Kodjo est vraiment de très bonne foi. Vraiment, il a la foi et il croit en sa médiation. Mais ce qui est évident, c'est que les politiciens congolais, malheureusement, n'ont pas la même foi du facilitateur. Ce qui fait que la tâche qui l'attend risque d'être vraiment très dure. Et vous l'avez entendu, il a dit que sa patience a des limites, mais cette patience-là, il la place au niveau de la limite supérieure. En effet, la classe politique congolaise, il faudra le reconnaître, brille par les jeux d'intrigue. On ne se dit pas la vérité et tout le monde est en train de se cacher, parfois derrière les textes constitutionnels, parfois derrière la population. Mais vous vous rendrez compte que le camp de la majorité est pour le dialogue. Le camp de l'opposition est également pour le dialogue. Mais la divergence demeure au niveau du contenu de ce dialogue. Qu'est-ce que la majorité entend par dialogue et qu'est-ce que l'opposition entend par dialogue? Pour le cas, il faut convoquer le dialogue pour fiabiliser le fichier électoral, il faut convoquer le dialogue pour éviter les violences qui accompagnent généralement les élections en RDC, si on prend l'expérience de 2006 ainsi que de 2011. À ce niveau, si je voudrais d'abord m'apesantir là-dessus, je dirais ceci. Nous devons éviter de réfléchir. S'il y a eu des violences, qu'est-ce qui a été à la base? Donc, le pourquoi de la violence? Il y a eu de la violence, effectivement, tout simplement, c'est parce que les élections n'ont pas été transparentes. Les gens n'ont pas accepté les résultats tels qu'ils étaient proclamés par la CI, puis plus tard par la CENI. Alors, je pense qu'à ce niveau, si on veut corriger les choses, il faut rassurer que désormais, nous pouvons présenter de bonnes élections. Il faut rassurer que les élections seront transparentes. Et si tout le monde croit en ces élections, je ne pense pas que les élections soient émaillées de violences et que de ce fait même là, qu'on puisse convoquer tout un dialogue, parce qu'on ne se voile pas la face. Le dialogue aura des implications financières, mais pendant ce temps, on est en train de dire que non, nous avons un problème de déficit financier, et dans l'entretemps, on veut convoquer le dialogue. Alors, si nous prenons aussi le camp de l'opposition, l'opposition aussi accepte le dialogue, mais ce dialogue a un autre contenu que celui du camp de la majorité. Pour l'opposition, on va aller au dialogue, on va négocier le départ en douceur de Joseph Kabila et que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel. Et ici, il y a lieu de relever une chose. Que l'opposition a subi la politique de la majorité. Celle-ci, cette dernière, a traîné le pain, et je l'avais encore autrefois dit, la majorité a appliqué la politique du pourrissement, et finalement, techniquement parlant, il est impossible que le délai constitutionnel soit vraiment respecté. Alors, devant ce dilemme, c'est vrai, Edem Kodjo, en tant que facilitateur, il peut faire ce qu'il peut, mais ce qui est évident, je présage déjà que la tâche ne lui sera pas facile parce que les deux camps sont en train de regarder chacun dans sa direction et il est difficile à ce niveau aussi d'arriver à un consensus à partir duquel on peut vraiment convoquer un dialogue sincère et franc entre les acteurs politiques en RDC.
Oui, professeur Jeff Mudingi, Edem Kodjo annonce qu'il est en train de partir à Bruxelles, n'est-ce pas, pour rencontrer l'opposition, en fait l'IDPS, Etienne Tshisekedi, ainsi que ses alliés du Rassemblement. Vous ne pensez pas qu'il aurait dû commencer par échanger avec la majorité présidentielle au sujet des revendications de cette opposition avant d'envisager d'aller à Bruxelles et rencontrer ses opposants dont la position est déjà connue?
Bon, merci beaucoup pour la question. De toutes les façons, le facilitateur est libre. Il n'y a pas seulement un seul schéma dans lequel il devait s'inscrire. Il est libre soit de commencer par rencontrer d'abord l'opposition, surtout lorsqu'il estime que la participation au dialogue ne pose aucun problème du côté du camp de la majorité, et que là où on peut voir que les gens sont en train de traîner les pas, c'est du côté de l'opposition. Donc il est libre, et nous pouvons lui faire confiance, qu'il commande, il peut commencer là où il veut, mais ce qui est évident, c'est de, donc l'essentiel c'est d'arriver à la fin, d'arriver à atteindre ses objectifs.
Merci Monsieur Feli Fouamba, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
Oui. Maxime Kabila de Lubumbashi dans la province de Katanga. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. À l'ère où la tension est palpable entre les deux camps, c'est-à-dire majorité et opposition, le dialogue national devient incontournable. Sinon, le pays s'achemine lentement mais sûrement vers la crise. En plus, l'annonce d'Eden Kodjo, exhortant ceux qui tergiversent à revoir leur position pour aller de l'avant, car, dit-il, le dialogue qu'il facilite n'est pas différent de celui voulu par la résolution 2277 de l'ONU, vaut son pesant d'or. Car rejeter le dialogue de n'importe quel format soit-il, devient un complot contre la République et son peuple. Aujourd'hui, tout le monde, majorité comme opposition, doit regarder à l'avenir du pays après le 19 décembre 2016 au cas de l'annonce tenue de l'élection présidentielle dans les délais au lieu de se cramponner dans des positions de nature belliciste. Le peuple n'en a pas besoin.
Oui, M. Philippe Fomba.
Écoutez, mon frère Maxime Kabila de Lubumbashi est en train d'exprimer justement les sentiments profonds de l'ensemble, ou peut-être de la grande majorité de Congolais. Et quand il dit que les tensions sont en train de monter, les tensions sont palpables, et dans ces conditions-là, le dialogue devient incontournable, ce qui est en fait une vérité. Nous avons compris la chose depuis février 2015. Le président Tshisekedi a publié sa feuille de route dans laquelle il faisait justement allusion, ou peut-être il présentait précisément que la voie royale pour aider la République démocratique du Congo de sortir, comme le disait le professeur Moudimbi tout à l'heure, pour sortir de cette politique de pourrissement. La politique de pourrissement a été entretenue justement par les amis du pouvoir. C'est comme on l'a toujours dit dans le monde des élections. Les élections ne se préparent pas à la veille. Mais c'est toute une mandature que l'on a pour préparer les élections. Les amis au pouvoir ont mis 4 ans sans rien faire. Ils attendent la veille.
Et ça fait 4 ans que l'UDP se réclame ces dialogues.
Voilà. Et c'était d'ailleurs
5 ans parce que
c'est au lendemain
des élections de 2011 que l'UDP a commencé à réclamer les dialogues.
Il a dit les conditions que nous venons de connaître, que la communauté internationale ne se fatigue pas de la RDC, qu'elle vienne à notre secours, qu'on organise un dialogue pour essayer de corriger cette énormité qui vient d'être commise. J'ai entendu mon frère tout à l'heure,
Kakwata,
en train de dire que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui va nous amener tout droit contre le mur, est voulue par l'opposition. Non, sincèrement, ça devient un petit jeu d'Autriche.
Mais on a aussi l'impression que, en fait, c'est l'UDPS qui est en train de chercher les diables dans les détails.
L'UDPS ne cherche pas le diable dans les détails. L'UDPS a fait, au-delà des 30 ans, à la date d'aujourd'hui, jour pour jour, que l'UDPS se bat dans ce pays pour l'organisation des élections crédibles, transparentes, démocratiques, qui prendraient en compte le respect du peuple congolais. Et l'UDPS ne peut pas aller chercher le diable, parce que l'UDPS a l'expérience de tout ce qui s'est passé dans ce pays. L'UDPS connaît en profondeur la classe politique de ce pays. Elle sait de quoi est composée cette classe politique.
Alors, lorsque le professeur Jeff Moudimbi dit que la classe politique congolaise brille par les jeux d'intrigue, comment vous réagissez à ces propos?
Quand vous m'aviez accordé la parole, j'ai fait allusion à ces jeux d'intrigue, sans doute qu'il m'a entendu. Je parlais d'intrigue, de cabale, de débauchage, de corruption et tout ça. Ça, c'est la caractéristique de la conduite de la politique dans notre pays. Pour notre frère...
Et l'UDPS y est pour quelque chose.
Non, l'UDPS n'y est pas pour quelque chose. L'UDPS veut que les choses soient faites dans le règle de l'art, en respectant les principes et les valeurs et démocratiques et républicaines. Vous savez, il arrive toujours que nous disions que le pays, c'est comme l'organisme humain. Monsieur Guy, tel que vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas donner à votre organisme des aliments qui vont compliquer son fonctionnement normal. Vous allez faire en sorte que vous donniez à votre organisme les aliments qui permettraient à votre organisme d'être sain et fort.
Vous voulez dire quoi par là ?
Nous, je veux dire ceci. Depuis que le processus électoral a commencé, je vous demanderai de m'excuser. Parce que je vais vous rappeler un peu plus loin. Vous savez, en 2005, nous avons dit à cette classe politique congolaise, parce que c'est la même, que nous ne pouvons pas procéder à une prolongation automatique de la transition sans pour autant savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les 2 ans et qui nécessite que l'on fasse une prolongation automatique.
De faire une évaluation.
Nous avons dit arrêtons-nous, évaluons, réévaluons la transition si c'est possible que nous prenions même 3 ans parce que c'est pour nous.
On n'a pas donné raison à l'époque.
Ah voilà. Et aujourd'hui, j'entends mon frère dire que c'est l'opposition. Et au bout, dans son entendement, il veut mettre l'UDPS à l'avant, que c'est l'opposition qui amène le pays contre le mur.
Merci. Honorable Kakwata, il y a une question qui vous adressait, elle vient de Dungu.
Crispin Aribo, territoire de Dungu, province de Haute-Ouélé. À croire Eden Kodjo, bien qu'il se réclamerait des résolutions 2277 du Conseil des Nations Unies, je pense qu'il aurait donné raison à l'opinion selon laquelle il ne saurait jouer sa partie pris l'arbitrage des bons offices du dialogue. Pour la simple raison, la question lui posée, si le dialogue qu'il pense est orienté dans la seule perspective des résolutions 2277 aboutirait également aux élections dans les délais constitutionnels. Sa réponse n'était-elle pas une alternative au lieu d'une affirmative ou négative au regard de l'esprit et lettre des dites résolutions? Affirmer qu'on pourrait prendre des mesures qui s'imposent s'il n'y a pas d'élection dans leur délai prévu, n'est-ce pas contradictoire aux dites résolutions 2277?
Oui, honorable Kakwata.
Oui, merci beaucoup mon frère Crispin Alibo. Vous avez bien posé votre question, mais c'est que vous devez savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, au début de mon intervention, la situation que nous avons à ce jour, étant donné qu'elle est voulue par l'opposition, a fait que le délai constitutionnel ne sera plus respecté. Parce que je vous ai fait des calculs arithmétiques pour démontrer que si l'opposition avait accepté de venir au moment où le dialogue avait été convoqué, à ce jour, on ne serait même pas en train de discuter et on attendait la convocation du scrutin électoral. Mais étant donné que M. Eden Kodjo ne peut pas déjà vous affirmer, parce que tout cela, ce sont des points que maintenant nous sommes obligés de traiter dans le dialogue. Et il faudrait comprendre que cette constitution, c'est le politique qu'il a confectionné et après remis au souverain primaire, le souverain primaire l'a adopté. Donc le politique encore doit mettre de l'eau dans son vin et venir parler et de sorte qu'on nous se regarde dans les yeux pour décider de l'avenir de demain de notre république.
Lui, ça, c'est un premier problème. En tant que facilitateur, n'est-ce pas, il devait, parce que en fait, c'est l'esprit de la résolution 2277 qui doit primer.
Oui,
il devait en principe dire que les choses vont se passer conformément à la résolution 2277.
C'est ça qui vient même
cette résolution, n'est-ce pas, qui prône les dialogues, mais aussi qui prône la tenue des élections dans les délais constitutionnels.
Oui, c'est ça qui vient même de vous dire qu'il ne s'écarte pas de cela. C'est pourquoi je vous dis que même l'ordonnance du chef de l'État convoquant, c'était aussi dans les délais constitutionnels. Donc l'ordonnance ne s'est pas écartée de la résolution 2277. Et d'ailleurs, il faut même noter que l'ordonnance est venue avant la résolution. Donc la résolution n'a fait que rejoindre l'ordonnance du chef de l'État. Donc pour vous dire que nous tous, on était dans le délai. Mais il s'avère qu'une situation est créée par une frange de l'opposition, parce que c'est pas toute l'opposition, il y a quand même d'autres oppositions républicaines qui ont compris. Parce que là, au moins, ils se disent, c'est pour la patrie. Et une force de l'opposition a créé une situation qui ne permet pas et qui amène maintenant le pays dans le chaos, si je peux utiliser ce terme. Et si je vais dans le contexte contenu de ce que mon frère Félix Fouamba venait de dire, le contexte du dialogue demandé par l'UDPS à son temps, c'était un contexte rejetant les résultats de 2011. Tandis que le contexte actuel, il est différent. Actuel, c'est un contexte par rapport aux élections et l'enrôlement de nouveaux majeurs en tenant compte des Congolais de la diaspora. Donc, deux contextes tout à fait différents. Plus loin, en 2006, l'UDPS n'est pas venu avec nous. Mais par après, ils se sont ravisés pour revenir en 2011. Donc, pour dire que nous, nous avons une vision, une longueur d'avance dans la vision du pays. Et encore à ce jour, c'est encore eux qui sont en train de bloquer la machine, parce que sachant que nous, on a encore une longueur d'avance, comme je vous ai dit, l'alternance ne se fait pas, c'est la majorité qui part en laissant l'opposition. L'alternance peut se faire au sein de la majorité. Et eux-mêmes parlent de 32 ans ou de 33 ans, je peux même leur donner 100 ans d'opposition.
Et la majorité, est-ce qu'elle est prête à aller aux élections, la majorité?
Est-ce qu'ils ont-ils au moins gouverné?
La majorité
non.
Est prête
alors,
à aller aux élections?
Alors, c'est pour ça qu'ils veulent avoir un cadeau. Et c'est pour ça qu'ils veulent avoir un cadeau, qu'on leur donne un pouvoir sans élection, sans rien, parce qu'ils ne savent pas arriver. En 2006, ils ont refusé, ils nous ont rejoints, et maintenant là, on redonne une occasion, ils disent non, le 19, M. Kabila doit nous remettre les clés, parce que nous, on va venir maintenant être président.
Merci.
Comme un cadeau, nous, on
Professeur
a eu Jeff... ça démocratiquement.
Bah, c'est un ordre de peur.
Professeur Jeff Mudimbi, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, c'est qui vous?
Robert, d'homme de Bukavu, aussi de qui? Si sur le plan de la forme, le dialogue tel que voulu par la majorité n'est pas différent de celui proposé par la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur le plan de fond, cette différence existe. Je pense que l'ONU et l'Union africaine, à travers Eden Kodjo, devraient d'abord chercher à recréer la confiance perdue entre la majorité et l'opposition, si l'on veut bien que ce dialogue soit réellement une solution à la crise politique et à l'impact du processus électoral à l'RDC. Auquel cas on ferait que marquer le pas et aussi perdre le temps par rapport à cette démarche politique.
Professeur Jeff Mudimbi.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier les patriotes congolais qui viennent d'intervenir à partir de Bukavu. Je crois que son analyse qu'il vient de faire a vraiment des éléments qu'il faudrait louer. En effet, je venais de le dire aussi dans mon intervention première, que le dialogue d'une manière ou d'une autre, est accepté par tous les deux camps. Mais c'est le contenu que l'on voudrait donner à ce dialogue. Et la classe politique congolaise ne voudrait pas s'exprimer clairement. Il est évident, pour le camp de la majorité, le dialogue permet au président et aux institutions, en général aux institutions qui sont encore en place, de pouvoir encore prolonger leur mandat. Et surtout, lorsqu'on se fie aux déclarations du président de la CENI, que le processus d'enrôlement des nouveaux électeurs, des nouveaux majeurs, et même des Congolais de l'étranger, doit aller jusqu'à 16-17 mois. Et pendant ce temps, l'opposition estime que nous allons au dialogue, c'est pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Alors, vous voyez déjà que nous sommes devant un embarras. La CENI qui doit organiser les élections déclare haut et fort que au mois de septembre, ce serait impossible que l'enrôlement va aller jusqu'en l'an 2008. Alors, c'est tout ça qu'il y a comme problème, qu'il y a comme difficulté entre les deux classes politiques congolaises. Nous demandons vraiment aux uns et aux autres de faire quand même preuve de beaucoup de patriotisme en mettant à l'avant-plan l'intérêt national. Donc que le camp de l'opposition puisse d'abord se libérer du radicalisme outrancier et que le camp de la majorité fasse aussi un effort d'éviter de travailler dans le sens de l'égoïsme. Vraiment, il n'est un secret pour personne, la majorité est en train de vouloir conserver le pouvoir, même au-delà du mandat constitutionnel. Si vous prenez la lettre ouverte qui avait écrite par ce qu'on appelle aujourd'hui le G7, elle n'avait rien d'injuriant. Cette lettre a demandé seulement au président de bien vouloir respecter le délai constitutionnel. Mais, curieusement,
Et c'est ça le drame du président de la République, parce que il est entouré des gens, non pas qui veulent lui rendre la tâche facile, mais ce sont des gens qui veulent le flatter de manière à ce que pendant qu'il est encore là, qu'il puisse tirer les dividendes qu'offre l'exercice du pouvoir.
Professeur, vous avez dit que nous sommes dans l'embarras. Étant donné que on ne sent pas des signes des rapprochements, n'est-ce pas, dans les deux camps, et que faut-il pour sauver ce processus de dialogue? Vous avez demandé à ce que la classe politique puisse mettre l'intérêt supérieur de la nation à l'avant-plan, et à part ça, qu'est-ce faut-il faire encore?
Oui, bon, jusque-là, je pense que c'est... Si réellement les deux classes politiques antagonistes, donc le camp de la majorité et le camp de l'opposition, pouvaient travailler vraiment dans le sens de l'intérêt général. Vous savez, notre démocratie ne doit pas souffrir. Nous sommes encore une jeune démocratie. Nous devons comprendre les règles des jeux. Mais ce qui est évident, je prie l'opposition d'éviter le radicalisme outrancier. Et nous demandons aussi aux gens de la majorité d'éviter trop de d'éviter la flatterie, d'éviter vraiment d'entraîner le président dans des histoires très compliquées alors que le texte constitutionnel est très clair. Ici, je voudrais encore rappeler un adage auquel j'avais encore fait allusion, d'un musicien qui avait dit « Entourage et salakamabé ». Et je suis sûr que l'entourage du président de la République ne veut pas lui rendre la tâche facile en lui disant clairement comment les choses doivent se faire. Le président Kabila a fait beaucoup de choses pour ce pays. Grâce à lui, maintenant, l'intégrité territoriale est une réalité vivante. Je crois que si il partait pendant ce temps ici, nous pensons qu'il resterait vraiment gravé à la mémoire des Congolais, plutôt que de compliquer encore la situation davantage pour que le sang des Congolais coule. Nous avons assez à dire, je crois qu'il est grand temps que nous puissions reconstruire ce pays.
Professeur Moudimbi, vous allez aussi conclure. Vous avez dit qu'il est temps que la classe politique puisse travailler dans le sens de l'intérêt général. Vous pensez que cette classe politique est disposée à se faire mutuellement des concessions?
Bon, en tout cas, dans la configuration actuelle de la vie politique, nous pensons qu'il devient très difficile. Mais le facilitateur, comme il est là, qu'il continue encore à souffler, qu'il souffle davantage, s'il peut réunir, amener les deux classes à trouver un consensus, nous disons mieux.
Monsieur Félix Fouamba, vous êtes de l'UDPS. À votre avis, que faut-il pour sauver ce processus de dialogue? Vous allez se conclure par là.
Oui, ce qu'il faudrait faire pour sauver ce processus de dialogue, c'est éviter le langage comme celui de mon frère ici, Patrick Thierry, André Kakwata. Il sait très bien que M. Kabila et l'ensemble de ses amis du pouvoir, ils sont au pouvoir par hold-up électoral. Et autour de cet hold-up électoral, il y a eu mort d'hommes. Il y a eu des Congolais qui ont perdu leur vie à l'occasion d'une élection. Vous trouvez ça correct?
Alors, est-ce que vous êtes prêt? Vous avez suivi le prof Moudimbi qui vous exhorte, n'est-ce pas, à travailler dans l'intérêt supérieur, n'est-ce pas, de la nation. Est-ce que vous êtes prêt, vous, acteurs politiques, à vous faire mutuellement des concessions?
Nous sommes prêts. Si même il veut chercher à créer un distinguo des contextes de dialogue. Si nous avons publier la feuille de route.
Et quelles sont les concessions que vous pouvez vous faire mutuellement si aujourd'hui la majorité accède à votre demande d'annuler, n'est-ce pas, l'ordonnance portant convocation de ces dialogues nationaux? Qu'est-ce que vous allez faire en contrepartie à la majorité?
Mais en contrepartie à la majorité, nous participons au dialogue avec eux qui ont tué nos combattants.
Merci.
Et qui ont fait un hold-up électoral, monsieur.
Honorable Kakwata, que faut-il pour sauver ces dialogues?
Vous devez savoir qu'au niveau de la majorité, nous sommes trop flexibles. Le facilitateur étranger, c'est l'opposition qui a demandé. La majorité a accédé. Tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, ils ont demandé le co-facilitateur dans un panel. La majorité a accepté parce que la majorité veut le bien de la population. Si nous sommes bloqués aujourd'hui, c'est l'opposition qui nous bloque.
Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à Alain Goy qui était à la technique. Merci à toute l'équipe du Dialogue Congolais. Alain Rung, Berry, Franklin, Lujaka, sous la supervision des Pélé, Kipé Lamondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi du programme sur Radio Capi.